Tout ce qu'on apprend, ça sert à quelque chose, oui.
Anticyclonique.
Ça sert à être gagnant et avoir un jour.
Aujourd'hui dans Anticyclonique, les crocs d'Olivier Nautal.
Alors après la Tunisie, l'Égypte, Bahreïn et bien sûr la Libye, en attendant quelques autres, je vous propose de poser un regard rapide sur ce qui se passe en Syrie. Un air de déjà-vu. Un dictateur, Bachar al-Assad, qui récemment fut reçu en grande pompe à Paris par notre président Nicolas Sarkozy, fait tirer à balles réelles sur son peuple qui ose lui demander un tout petit peu plus de liberté. 50 ans d'état d'urgence, cela fait peut-être un petit peu long. On se croirait exactement il y a quelques semaines en Libye. Notre super-héros de président va-t-il envoyer ses rafales sur les troupes syriennes ? En souvenir peut-être de ce 14 juillet 2008 où le dictateur de Damas avait été, vous en souvenez-vous, l'invité d'honneur du défilé militaire sur les Champs-Élysées. En ces temps-là, lointains, il était courtisé par notre Napoléon de Neuilly-sur-Seine pour faire partie de cette formidable organisation qui devait révolutionner les rapports nord-sud en Méditerranée. Un machin intitulé « L'Union pour la Méditerranée » avec en première ligne Ben Ali, Moubarak et donc El Assad. Que du beau monde. Vu le vent de l'histoire que notre diplomatie n'a pas vu venir, cette union pourrait se transformer en maison de retraite pour anciens dictateurs qui auraient été virés par leur peuple. Revenons à la Syrie. Bachar, c'est le fils de son père. Hafez, qui avait déjà connu une forte révolte de son peuple. C'était en 1982. Une ville était devenue rebelle, Hama, tel est son nom. Le dictateur d'alors, père de son fils actuel, avait fait dans la répression, disons, légère. Il avait fait bombarder la ville à l'artillerie lourde. Le bilan de ce maintien de l'ordre reste difficile à chiffrer. Selon les sources, on a parlé de 10 000, voire de 25 000 morts chez les rebelles. Du grand art. Certes, nous n'en sommes pas encore là, mais le pouvoir syrien a commencé à massacrer ses opposants, quelques dizaines de morts, combien de blessés, mystère. La police politique de ce pays est certainement l'une des plus terrifiantes du monde. On pourrait peut-être la comparer, en plus expéditive, à la Stasi de l'ex-Allemagne de l'Est. Les populations sont systématiquement fichées, épiées, menacées. Comme le disait Winston Churchill, premier ministre britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, on différencie une démocratie d'une dictature ainsi. Quand on sonne le matin, de bonne heure chez vous, en démocratie, c'est le laitier. Chez l'ancien grand copain de notre Nicolas, va-t-en-guerre, ce ne doit pas être une bonne nouvelle si on sonne chez vous dès le matin. Ce pays vide sous une chape de plomb. Il s'agit d'un des régimes les plus autoritaires, policiers et militaires du coin. Et pourtant, il y en a quelques-uns. Notre diplomatie, qui voulait retrouver sa gloire avec sa politique arabe, en référence à celle menée du temps du général de Gaulle, n'est qu'un champ de ruines. Nous nous sommes fourvoyés avec ces tyrans, de Damas à Tripoli, en passant par le Caire, Tunis ou même Alger. Et j'en passe. Nous ne sommes pas crédibles auprès des peuples. Aujourd'hui, à Dera, à la frontière jordanienne, on attend quoi de la France? Des rafales de bonnes intentions? Ou plutôt une politique claire, soutenant vraiment les populations qui se soulèvent après tant d'années de non-dits.
C'était Anticyclonique sur Divergence FM, proposé aujourd'hui par Olivier Nautal.
Et avant de retrouver Karima et Simon pour un petit tour de baroud post-électoral, un petit peu de musique avec un extrait de Forever Dolphin Love, dernier album ou premier album de Conan Mocassin, dont on écoute le deuxième titre intitulé It's Chouade, My Dear.
Mmh.
Et voilà, 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 tout arrive. Karima et Simon ont pris place dans le studio 102 du 93.9. Bonjour mes amis.
Salut Gilles, salut Karima.
Alors on va commencer aujourd'hui, c'est un petit programme consacré aux élections cantonales. Alors aujourd'hui c'est le lendemain de second tour de ces fameuses élections. Chers auditeurs, hier soir Simon est allé à l'hôtel du département pour nous ramener les résultats, mais aussi et surtout les réactions de nos élus. Au menu de ce programme, les résultats, l'abstention et le coup d'envoi de la présidentielle. On commence par les résultats de ce scrutin qui donne le coup d'envoi de la campagne présidentielle, mais nous y reviendrons. Alors côté résultat, c'est le grand chelem pour la gauche et André Vézinet. La gauche remporte les 26 cantons sur les 26 renouvelables dans l'Hérault. Elle ravit même les deux seuls cantons qu'avait l'UMP. Mais même si la poussée frontiste a quand même eu lieu, puisque sur le plan national, le parti gagne 300 000 électeurs, elle ne s'est pas concrétisée, mais revenons plutôt aux résultats.
Et on commencera par Montpellier. D'ailleurs, sur le canton de Montpellier 3, Philippe Sorel du Parti Socialiste l'emporte face à Nicolas Dubourg d'Europe Écologie avec 61% des voix. Sur Montpellier 5, Christian Benezis du Parti Socialiste encore et toujours l'emporte face à Alexandra Pousset du Front National avec plus de 67% des suffrages. Sur Montpellier 7, Jacques Martin, toujours du Parti Socialiste, l'emporte face à Charles Galtier, le frontiste, avec 71% des voix. André Vézinet remporte le 9e canton avec 65% des voix face à Mohamed Bouclit du Front de Gauche. Pour Montpellier 10, ce sera Monique Pétard qui sera élue avec 66% des voix face à Alain Berruet du Front National. Et passons à Béziers, où sur le canton numéro 3, c'est Philippe Vidal, le socialiste, qui a remporté l'élection face au Front National Pascal Loubet avec 54% des voix. Béziers 4, le scrutin a été encore plus serré car Jean-Michel Duplat s'est imposé de justesse avec 50,71% des voix face à Guillaume Vouzelot du Front National.
À Capestan, c'est Jean-Noël Badenas du PS qui s'est imposé face à Mathieu Estérias du Front National avec 57% des suffrages. À Castelnau, c'est Pierre Bonal, bien sûr, du PS qui a ravi le canton à l'UMP Frédéric Laforge avec 52,65% des voix. C'était très serré. À Castries, Jean-Marcel Castet du PS l'emporte face à Pierre de Dieuzer avec 59% des voix. À Clermont-l'Hérault, c'est Alain Carzolac du PS qui l'emporte face au FN Julien Ruche avec 63% des voix. Au Matel, c'est Christian Duprat d'Europe Écologie qui l'emporte face à Guillaume Fabre, UMP, avec 52% des voix. Ce sera le seul écologiste au Conseil Général. À Ganges, c'est Jacques Rigaud qui s'impose face au FN Bernard Jamet avec 63% des voix. À Latte, c'était très serré. Le sans étiquette Cyril Meunier l'emporte face au FN Alain Jamet avec 60% des voix finalement. À Lunel, c'est Claude Barral qui s'impose face au FN Joseph Castano avec un petit 53% des voix. À Moggio, c'est Yvon Bourel, d'hiver gauche, qui l'emporte face à Christian Toché avec 62% des voix.
Et pour finir, sur les hauts cantons, sur le canton de Pézenas, c'est Pierre Guiraud qui s'impose face au Front National. François Amoros avec plus de 67% des suffrages. À Pignan, Jean-Pierre Moore, le fameux Jean-Pierre Moore, l'emportera face au divers gauche Jacques Martigny avec 60% des suffrages. Servian, ce sera Henri Cabanel, je vous le donne en mille, un socialiste qui s'imposera face au FN Louis Lucas avec 60% des voix. Et sur le deuxième canton de Sète, François Liberty, le communiste Front de gauche qui s'impose avec 57% des voix face à l'UMP Émile Amfosso. Et enfin, pour terminer, à Saint-Chinian, c'est Robert Tropeano du PS qui s'impose avec 55% des voix face à Gérard Affre sans étiquette.
Pour la gauche, hier, à l'hôtel du département, c'était plutôt soir de fête, mais avec modération au vu de la percée de l'extrême droite. On écoute dans l'ordre Hélène Mandrou, la maire de Montpellier, Monique Pétard, élue sur le 10e canton, Jean-Michel Duplat, élu sur Béziers 4, et enfin André Vézinet, l'actuel président du Conseil Général.
On est vraiment content parce que tous les candidats socialistes sur les 5 cantons, ils sont entre 60 et 70%, c'est formidable. Oui, en plus, on a récupéré 2 cantons, les Matel et Castelnau, ça c'est formidable. Et surtout, Béziers 3, Béziers 4, là on avait vraiment très peur, et que Jean-Michel Duplat soit élu avec 100 voix d'écart, ça prouve qu'on a bien fait de se bouger et de se mobiliser.
Vous avez vu qu'on a fait 71-79% sur Montpellier? Et donc, même Juvignac, où Madame le maire s'est efforcée de mettre dans les boîtes aux lettres des tracts indécents, nous avons fait 55, je vais vous dire ça, 36%. Et à Grabel, 72%. Il faut se rappeler que ce canton fait 46 000 habitants et 25 500 inscrits.
C'était pas gagné, mais bon, on a eu ce qui nous a permis de l'emporter, c'est que bon, la participation a augmenté, mais surtout, il y a eu pas mal de nouveaux électeurs qui n'étaient pas venus au premier tour. C'est ce qui a permis de remonter la pente, bon, et d'arriver en tête et de l'emporter. Mais dans un contexte difficile où on a l'impression un peu que il y a une digue qui a rompu, si vous voulez, et où une grande partie des voix de droite ont choisi de voter pour le Front National. Et ça, c'est un précédent qui va poser des problèmes.
Si Jean-Michel Duplat, le Front National, qui avait une confortable avance sur Jean-Michel Duplat, ce Front National avait eu la force d'attractivité qu'il espérait avoir, il aurait gagné largement contre Jean-Michel Duplat. Oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé entre les deux tours? Malgré les choses inacceptables que certains socialistes d'une ancienne équipe qui est révolue et qui va être jetée dans les poubelles de l'histoire, si malgré cette lutte intestine de certains socialistes, des textos qui apparaissaient sur les écrans où on disait « Votez Jean-Michel Duplat », c'est un socialiste qui l'écrivait, « Votez Jean-Michel Duplat, c'est voter Raymond Coudert ». Donc, il a eu tout contre lui, Jean-Michel Duplat. Mais oui, il y a eu quelque part une solidarité qui s'est créée. Nous avons été le soutenir. J'y ai été moi-même. Hélène Mandrou y a été. Toutes les forces vives du socialiste et authentiquement de gauche du département y sont allées. Jean-Michel Duplat a gagné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En face de lui, il avait un maire qui disait « Je laisse la liberté de choix, chacun votera en son âme et conscience », en indiquant nettement qu'il fallait que les gens de Béziers votent pour le Front National. Eh bien, ce soir, il y a un cocu, un battu largement, c'est Raymond Coudert, parce qu'il a tout fait pour que le Front National soit élu. Eh bien, Raymond Coudert a perdu. Et il n'est pas le seul à avoir perdu. Il y en a un certain nombre qui ont perdu.
Côté abstention, elle a été en recul dans les hauts cantons, soit entre 48 et 55%. C'est d'ailleurs déjà là-bas que la participation était la plus élevée au premier tour. C'est à Montpellier qu'elle a été la plus forte avec plus de 60% dans tous les cantons renouvelables. Mais écoutons plutôt André Vézinet, Jean-Marcel Casté, élu sur le canton de Castries, Monique Pétard et Jacques Martin, élu sur le 7e canton de Montpellier.
Oui, elle est inquiétante. Bon, il faut l'analyser aussi. De façon très, très fine. Il y a eu énormément de gens qui s'étaient abstenus au premier tour, qui sont venus voter au second. On peut comprendre que les gens qui avaient voté Front National sur mon canton, les gens qui avaient voté UMP ne sont pas revenus aux urnes. Ils n'avaient plus de candidats à soutenir, donc ils ne sont pas revenus.
De plus en plus de gens qui n'ont pas de toit, qui ont besoin de travail, et il y a une désespérance. Je ne me suis pas satisfait d'avoir 50% de votants. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que effectivement, dans ces problèmes, les gens cherchent des solutions. Et je pense qu'au niveau politique, il faut dire des promesses qu'on peut tenir. Mmh. Et dans la force de raconter n'importe quoi, les gens n'y croient plus. Ce qui explique notamment un mécontentement par rapport à la classe politique en général, et notamment sur la droite. Aujourd'hui, on voit bien que la droite travaillait plus pour gagner plus. Plus personne n'en parle.
Sur l'abstention, il y a une analyse très fine qui mérite d'être faite. Je pense que d'une part, les gens ont du mal à se repérer entre les cantons, puisque seulement la moitié est renouvelable. Donc vu le découpage des cantons en ville, c'est très compliqué.
Ce qui est important, je crois, c'est que d'une part, l'abstention a un peu reculé et que surtout, on a véritablement éradiqué dans ce canton le Front National.
Enfin, l'autre fait marquant de cette victoire de la gauche aux élections cantonales, c'est qu'elle marque le lancement de la course à l'Élysée. Même si à l'UMP, on a quelque peu dédaigné ce scrutin local pour les nouveaux et les actuels élus de gauche, elle est tout simplement un premier pas vers la victoire en 2012.
Sur le plan national, la gauche s'est emparée de deux nouveaux départements, le Jura et les Pyrénées-Atlantiques. Elle pourrait, après les élections des présidents, ravir même à l'UMP, la Loire et la Savoie. Donc seule victoire de l'UMP, le fief de Dominique Strauss-Kahn, à savoir le département du Val-d'Oise. En clair, la gauche recueille environ 36% des suffrages sur le plan national, l'UMP 19% et le FN 11%. On suivra bien sûr la course à l'Élysée qui devrait commencer aujourd'hui, car selon certaines informations, le président aurait réuni ce matin tous ses conseillers pour analyser les résultats du scrutin et ainsi choisir la future stratégie pour gagner 2012. On vous tiendra informé de tout ça, bien sûr, sur Divergence FM. Mais restez avec nous car dans quelques instants, on retrouve Yves-Marie Le Bozec et ses invités pour un provoscopie consacré à la presse quotidienne régionale.